Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, retour sur l'un des impôts les plus controversés, les plus discutés de notre pays, l'impôt sur la fortune. Depuis 1982, chaque année, certains de nos compatriotes s'attellent à la tâche complexe de la déclaration de leur fortune. Pauvre, riche contribuable qui doit recenser, évaluer et déclarer l'ensemble de ses biens assujettis à cet impôt. Combien sont-ils ? En 2015, 343 942 personnes étaient concernées. Combien cela a-t-il rapporté aux caisses de l'État ? 5 milliards et 22 millions d'euros. Cet impôt est à l'image du système français, complexe et friable, tant il est aisé d'en réduire l'impact quand on connaît les chemins de l'optimisation fiscale. Tout l'enjeu, par ailleurs, est qu'il soit accepté par une majorité. Si on peut parler, par exemple, d'un consensus fiscal pendant la période économique prospère des Trente Glorieuses, celui-ci vole en éclat dès les premiers soubresauts de la crise. C'est durant cette période que l'on commence à considérer, en France, à droite comme à gauche, l'idée d'un impôt auquel seraient assujettis les citoyens les plus fortunés. Mais que désigne-t-on sous le terme de fortune ? Jusqu'à quelle hauteur faut-il taxer la richesse provenant du travail et du capital sans mettre à mal la machine économique ? D'ailleurs, qui va continuer de payer l'ISF après la réforme Macron qui le remplace par un impôt sur la fortune immobilière ? À qui va profiter cette baisse d'impôt global estimée à 4 milliards d'euros ? L'ISF et l'esprit de l'ISF sont-ils en voie de disparition ? L'impôt sur la fortune, totem pour certains, tabou pour d'autres, c'est cette histoire mouvementée que nous allons vous raconter aujourd'hui. Notre invité après le récit, Laurent Geoffrin, directeur du journal Libération, notre partenaire, une fois par mois. Vous entendrez également le reportage d'Anaël Verzo qui est allé à la Fête de l'Humanité dimanche dernier où elle a sondé les participants sur cette question de l'impôt sur la fortune, autrement dit, l'ISF et le peuple. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Laigle.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
François Fillon.
Oui, je suis un patriote, je suis un souverainiste. Je préfère supprimer l'ISF plutôt que de voir l'économie française sans capitaux passer sous contrôle étranger.
Emmanuel Macron.
L'ISF, qu'est-ce que ça taxe ? Ça taxe l'enrichissement pendant le cycle de vie et donc le capital productif et non productif. Moi, je supprimerai la part qui taxe le capital productif.
Alain Juppé.
Il suffit d'aller faire un petit tour à Bruxelles, à Genève, et y trouver des Français qui ont été conduits à quitter la France à cause d'une fiscalité sur les revenus de l'épargne qui est confiscatoire.
Nicolas Sarkozy.
La France est le seul pays d'Europe qui a gardé l'impôt sur la fortune. C'est le seul pays d'Europe qui a gardé l'impôt sur la fortune. Allez dire, monsieur Hollande, qu'il n'y a plus d'impôt sur la fortune, que nous avons fait des cadeaux aux riches, c'est une calomnie.
Comme les bourgeons au printemps, quand une élection présidentielle arrive, on voit réapparaître dans les programmes des candidats la proposition de supprimer ou de réformer l'impôt sur la fortune. En juin 2016, alors qu'il était encore ministre de l'économie d'un gouvernement socialiste et pas encore candidat, Emmanuel Macron appelait une réforme de l'ISF, notamment du statut d'imposition du capital productif. L'ambitieux est alors recadré froidement par le Premier ministre Manuel Valls, oubliant que lui-même avait appelé de ses voeux la suppression de l'ISF qu'il qualifiait d'inutile car peu rentable et surtout source d'injustice lors de la primaire de 2011. L'an dernier, le sujet est de nouveau débattu à l'occasion des primaires de la droite. Et c'est le candidat défendant sa suppression, François Fillon, qui est sorti victorieux de cette élection. Mais en réalité, voilà plus de 20 ans que la droite hésite à supprimer cet impôt. Au cours du second mandat de Jacques Chirac, pourtant prudent sur ce type de sujet, le débat sur l'ISF fait de nouveau les gros titres. Dans la presse, on lit par exemple les témoignages d'habitants de l'île de Ré qui, après l'explosion des taxes foncières, sont désormais assujettis à l'ISF, impôt qu'ils ne peuvent payer sans vendre leurs biens. Face à la bronca des parlementaires, le président lâche du lest. En 2006, la majorité invente l'idée d'un bouclier fiscal et plafonne l'imposition d'un contribuable à 60% de ses revenus. Un an plus tard, Nicolas Sarkozy fait de cette idée une mesure phare de son programme avec un taux encore plus bas, 50%. Quelques semaines après son élection, la nouvelle ministre de l'économie, Christine Lagarde, explique à la tribune de l'Assemblée la philosophie de cette mesure.
On ne peut pas en effet, d'un côté, encourager le travail et de l'autre, surtaxer l'argent gagné. Cette barre des 50%, est bien évidemment lourde de symboles. Elle instaure un véritable partenariat juste et équitable entre l'individu et l'État. 50-50, eh bien c'est la formule de notre contrat fiscal. Il suffit d'ailleurs, pour ceux qui sont curieux, de se poster Gare du Nord un vendredi soir à l'arrivée de l'Eurostar ou du Thalys pour comprendre que tous ces banquiers français partis travailler à la cité, que tous ces exilés fiscaux réfugiés en Belgique n'ont qu'une envie, c'est rentrer vivre en France.
Boucliers, exilés, réfugiés fiscaux, la guerre a-t-elle été déclarée aux plus riches, en tout cas dans le discours ? Les mots de l'imaginaire guerrier ponctuent souvent les débats autour de la question fiscale. Dès le 1er janvier 2008, la mesure du bouclier est effective et permet aux plus fortunés qui ont fait le choix de rester en France d'obtenir de l'État de jolis chèques. Le dispositif imaginé par la majorité n'est alors pas une réduction de la somme à payer, mais un remboursement après paiement. Et c'est ainsi qu'en juillet 2010, on apprend sur le site de Mediapart que le fisc a versé en mars 2008 la somme de 30 millions d'euros au titre du bouclier fiscal à Liliane Bettencourt. En pleine crise financière, le chèque du fisc français à la première fortune de France laisse des traces dans l'opinion. En 2011, la droite décide d'y mettre fin. Un an plus tard, la question du système fiscal et de la solidarité des plus riches est de nouveau au cœur des débats. En janvier, le candidat socialiste François Hollande promet un taux d'imposition de 75% pour la part des revenus qui dépasse 1 million d'euros par an. En mai, il est élu, mais le Conseil constitutionnel retoque sa proposition. Une nouvelle mouture est alors proposée, votée puis mise en place. Mais au début de l'année 2015, la mesure disparaît. Alors quoi ? Est-il si difficile d'imaginer une révolution fiscale ? Et 40 ans plus tôt, qui sont ceux qui ont imaginé pouvoir taxer les plus riches ? Quelles étaient les raisons évoquées ? Quelles sont les forces politiques qui ont combattu ou soutenu cette mesure ? L'histoire de l'impôt sur la fortune prend sa source pendant les dernières années des Trente Glorieuses. Au lendemain de mai 68 et pendant cette période de ralentissement de la croissance économique, la question de la répartition des richesses retrouve de l'écho au sein des milieux politiques. Oh, sans être la pierre angulaire des réflexions, la question fiscale réapparaît peu à peu dans les demandes des syndicats et des partis. Dans la version initiale du programme commun du Parti socialiste et communiste, on propose d'abord un alourdissement des droits de succession avant d'acter l'idée de la création d'un impôt sur la fortune, comme le mentionne le programme « Change la vie » de François Mitterrand. Mais la volonté d'imposer les plus riches ne se limite pas aux militants de gauche. Dans le sillage de la crise pétrolière de 1974, en effet, et de ses premières conséquences économiques en France, le président de la République d'alors, Valéry Giscard d'Estaing, demande un rapport sur cette question. L'étude conclut à la nécessité d'accroître la part de l'impôt sur le revenu dans les recettes fiscales pour réduire les inégalités sociales. Peu à peu, l'idée fait son chemin. On parle alors d'impôt sur le capital. Dans les pages du journal Le Monde, en 1976, on peut lire un long entretien de l'universitaire Jacques Gros-Claude, auteur de l'ouvrage intitulé « L'impôt sur la fortune ». Dans cette interview, il met en avant les avantages d'un tel dispositif qui permettrait notamment, et selon lui, un meilleur recensement des richesses ainsi que la mise au jour de dissimulation de revenus. De plus, cet impôt permettrait de pousser les détenteurs d'un capital à affecter ses ressources à des fins productives. Quand l'article est publié, 59% des Français se disent favorables à cet impôt, mais le gouvernement hésite encore à l'introduire. Pendant l'automne 76, lors de la discussion du projet de loi rectificative des finances, des députés, notamment André Fanton et l'URPR, expriment le souhait d'une imposition annuelle sur les fortunes des personnes physiques, dont les revenus sont supérieurs à 2 millions de francs. Le Premier ministre, Raymond Barre, s'y oppose. Quelques semaines plus tard, lors de son discours programmatique de Blois, le Premier ministre annonce la demande d'une étude sur l'impôt concernant le capital et sur lequel le Parlement devra ensuite statuer. Le lendemain de cette intervention, le leader communiste Georges Marchais réagit.
La France profonde, je la regardais hier soir à la télévision avec Barre. La France profonde, elle a chaleureusement applaudi quand il a dit pas d'impôt sur la fortune. La France profonde.
C'était la France en manteau de fourrure.
C'est-à-dire qu'ils veulent réaliser chez nous ce que Callaghan a fait en Grande-Bretagne, c'est-à-dire il a réduit le pouvoir d'achat des travailleurs de 7%. Il y a l'affirmation ici, ouverte, n'est-ce pas, que le pouvoir d'achat des travailleurs sera abaissé.
De tout le monde.
Ben oui, de tout le monde. Mais nous, on veut abaisser, c'est le pouvoir d'achat des riches, vous voyez. C'est ça qui nous différencie. Pour augmenter celui des pauvres.
Au sein de la majorité également, le choix du Premier ministre est également critiqué par certains. En mars 1978, lors d'une conférence de presse, Jean-Jacques Servan-Schreiber, président du Parti radical, propose son propre projet d'impôt sur la fortune.
Les gens déclareront leur fortune. Il n'y a pas d'inquisition fiscale. C'est une mesure de justice qui existe dans tous les pays modernes d'Europe ou d'Amérique, qui est une mesure bénéfique à l'économie, qui est une mesure profonde du point de vue moral, et qui aidera à créer cette solidarité nécessaire à la mobilisation des Français pour la renaissance de notre pays dans le bouleversement économique mondial que nous connaissons et dont nous souffrons.
Désormais, le sujet n'est plus seulement débattu dans des cercles d'initiés, mais il devient une arlésienne au sein des partis politiques. En revanche, il est un sujet récurrent dans les pages de la presse. Bien. Mais qu'entend-on par fortune? Quel patrimoine devrait être taxé? L'immobilier, les parts dans les entreprises, l'or, les œuvres d'art? Et puis, comment évaluer ces fortunes? Les journalistes frappent alors aux portes des personnes potentiellement concernées et récoltent leurs réactions et leurs craintes. Beaucoup annoncent déjà payer trop d'impôts, mais ils oublient souvent d'annoncer l'étendue de leur richesse. En janvier 1979, le rapport d'étude demandé par le Premier ministre, tant attendu, est enfin dévoilé. Voilà comment Roger Gicquel, bien dans son style délayé, résume, si je puis dire, la conférence de presse des trois députés en charge de l'étude.
Touchez pas au Grisby. Pendant longtemps, ça a été la règle en France quand un ministre des Finances ou un gouvernement s'avisait d'imaginer l'impôt sur la fortune. Taxer les revenus parfaitement connus parce que déclarer ceux des salariés, par exemple, ça c'est facile, comme de taxer la consommation, mais imposer les fortunes a toujours paru présenter beaucoup plus de risques pour l'économie du pays, pour ses investissements en tout cas, que de véritables profits pour la collectivité. Le rapport de messieurs Ventejol, Blot et Méraud, qui vient d'être remis à l'Assemblée nationale pour qu'elle en délibère, présente comme proposition centrale qu'au lieu de se lancer dans l'aventure d'un impôt annuel sur le capital, qui susciterait donc beaucoup de difficultés pour un rendement dérisoire, sans réellement corriger les inégalités entre les patrimoines, eh bien il serait plus juste de réformer le régime des droits de succession. Les petites et moyennes successions pourraient être exonérées, pour les autres, les taux de taxation seraient élargis de 5 à 40% pour une part d'héritage dépassant par exemple 2 millions. Quant aux très grosses fortunes, elles seraient frappées d'une surtaxe lorsque l'héritier a déjà lui-même un gros patrimoine.
Quelques semaines plus tard, malgré la crainte des rapporteurs, le congrès de l'UDF vote l'idée de la taxation du patrimoine supérieur au sein des économistes aussi. Le sujet fait débat entre les différentes écoles de pensée. En 1979, le cercle des nouveaux économistes de tendance ultralibérale, emmené notamment par Henri Lepage, préconise la baisse massive des impôts pour éviter la récolte qui gronderait chez les contribuables. Inspiré de l'école américaine, dont le pape est Arthur Laffer, certains économistes français reprennent ces chiffres et diffusent ces analyses qui se résument à cette formule « trop d'impôts tue l'impôt ». Un slogan que reprend en cœur la droite française face aux candidats socialistes et communistes. Si le programme commun n'est plus les deux anciens partis frères, ont gardé chacun dans leur proposition cette mesure d'impôt sur la fortune. Et le 10 mai 1981, c'est François Mitterrand qui est élu président de la République. Dans les jours qui suivent, on demande aux douaniers une attention particulière, car une rumeur court selon laquelle certains esprits chagrins auraient décidé de quitter le pays avec leur argent, craignant que la mise en place d'un impôt sur la fortune emporte leur richesse. Fantasme ou réalité, les remous boursiers, les annonces de départ ne font pas reculer le gouvernement. Le 8 juillet 1981, après une large victoire aux élections législatives, Pierre Mauroy, nouveau Premier ministre français, annonce dans sa déclaration de politique générale ses objectifs en matière fiscale.
En élisant François Mitterrand, les Françaises et les Français ont choisi de substituer à une société dure aux plus démunis, une société juste et équitable. Mais pour donner plus aux uns, il faut donner moins aux autres. Il n'y aura pas de miracle. Et il n'existe pas de cagnotte où prélever les revenus versés aux uns sans toucher à ceux des autres.
Le Le ministre en charge de cette mesure phare du gouvernement, du programme, est le ministre délégué au budget, Laurent Fabius. Il annonce d'abord que la taxation des grandes fortunes ne fera pas l'objet d'une loi, mais d'une mesure intégrée au budget qui pourra donc être renouvelée ou modifiée chaque année. Durant tout l'été, Laurent Fabius consulte et avance ses premiers pions. En septembre, le ministre commence à faire le tour des plateaux pour annoncer les différentes mesures fiscales envisagées, dont celles concernant les grandes fortunes. Alors, qui sera touché par cet impôt ?
Laurent Fabius, vous êtes pour nous d'abord et surtout l'homme de la feuille d'impôt. Vous êtes le ministre chargé du budget.
C'est malheureusement, il y a les recettes.
Mais qu'est-ce que vous frappez sur les hauts revenus, sur les cadres d'une façon générale ?
Je crois simplement qu'il y a beaucoup d'injustice fiscale et qu'il faut essayer d'aller vers plus de justice fiscale.
C'est un peu l'impôt sur la fortune.
Alors, l'impôt sur la fortune, c'est autre chose. Il touchera un peu moins de 2% des Français, environ 200 000 foyers. Quel est le principe ? Le principe, c'est que jusqu'à 3 millions de nouveaux francs, 300 millions d'anciens francs, on n'a rien à déclarer, on n'a pas d'impôt à payer. Au-delà de 300 millions de francs anciens, avec un bonus supplémentaire pour l'outil de travail, 500 millions de francs dans ce cas-là, là on a un impôt de 0,5%, 1% ou 1,5% au maximum. Ce sont des taux très raisonnables qui se situent à peu près dans la fourchette des pays qui ont cet impôt. Je vous surprendrai peut-être en vous disant que la Suisse a un impôt sur la fortune qui est d'ailleurs plus élevé que le nôtre, que l'Allemagne a un impôt sur la fortune aussi.
Le ministre tente de rassurer, mais le patronat commence à manifester son désaccord, notamment au sujet de la prise en compte de l'outil de travail. Les exploitants agricoles, comme les vignerons, s'inquiètent, par exemple, de la taxation de leur propriété où ils exploitent leurs vignobles. Les antiquaires montent également au créneau face aux mesures présentées par le gouvernement et, notamment, l'obligation du paiement par chèque de chaque œuvre dont le montant serait supérieur à 5000 francs. Les antiquaires y voient l'établissement d'un fichier des collectionneurs. Pendant l'étude du projet de loi à l'Assemblée nationale, ces différents arguments sont entendus. Le 28 octobre, les députés adoptent l'article 2 qui institue un impôt annuel sur les grandes fortunes supérieur à 3 millions de francs. Le lendemain, un amendement exonère les œuvres d'art. Le 30 octobre, on décide la même chose pour les biens professionnels dans la limite de 2 millions supplémentaires. Après un passage au Sénat, le 30 décembre 1981, la loi est promulguée. L'impôt sur les grandes fortunes est né. À la fin de cette année-là, près de 76% des Français l'approuvent. Et à ce moment-là, 104 000 contribuables l'ont payé. Cet impôt a fait entrer dans les caisses de l'État près de 3 milliards et 700 millions de francs. Mais que fera la droite quand elle reviendra au pouvoir ?
your heart on the collar saying no, no, no. No, no, no.
Christian Charnelet.
Oui, Jacques Chirac.
Autre question.
Plusieurs téléspectateurs vous demandent, si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous supprimeriez l'impôt sur la fortune? Cette question revient très souvent.
Vous savez, je suis partisan d'une imposition sur le capital. Elle existe dans tous les pays et elle existe notamment en France avec l'impôt foncier, avec l'impôt sur les successions, avec l'impôt sur les plus-values. Ce que je condamne dans l'impôt sur les grandes fortunes tel qu'il existe actuellement, ce n'est pas son principe, c'est ses modalités d'application. D'abord, c'est un impôt qui rapporte très peu et qui coûte très cher à mettre en œuvre. Ensuite, c'est un impôt qui présente un danger considérable à mes yeux, qui est l'inquisition. Et l'inquisition, dans ce domaine, a pour conséquence la fuite des capitaux, le refus de les investir avec les créations d'emplois que l'on perd à cette occasion. Et je suis donc contre toute forme d'inquisition. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, je suis favorable à repenser l'ensemble de l'imposition sur le capital et à supprimer l'impôt sur les grandes fortunes.
Ce 28 janvier 1985, sur le plateau de l'heure de vérité, le président du RPR ne laisse aucun doute sur ses intentions en cas de victoire lors des prochaines élections législatives. 4 ans après l'élection de François Mitterrand et le vote de l'impôt sur les grandes fortunes, les partisans de la droite française rêvent du grand soir fiscal et d'un retour sur les mesures du pouvoir socialiste. La peur fiscale est devenue l'un des thèmes récurrents des argumentaires de l'opposition. En 1984, le député RPR Philippe Auberger publie un pamphlet contre la politique du gouvernement intitulé « L'allergie fiscale » où il appelle à la révolte en ces mots « contribuables de tous les pays, unissons-nous ». Jacques Chirac en signe la préface, indiquant que, je le cite, « le poids des prélèvements obligatoires menace la liberté des Français et constitue pour notre économie un pesant et dangereux handicap ». L'argument n'est pas nouveau, mais il prend de l'ampleur depuis plusieurs années. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, c'est le capitalisme financier et la fin de l'État qui ont le vent en poupe. Quelques semaines avant l'élection du président français, en bon disciple de l'école de Chicago de Milton Friedman, son homologue américain Ronald Reagan déclarait dans son discours d'investiture « Dans cette crise actuelle, l'État n'est pas la solution à notre problème, l'État est le problème ». À droite, homme politique et intellectuel s'inspire alors de la pensée américaine. En 1985, dans les pages du Figaro magazine, l'intellectuel libéral Guy Sorman déclare que le jour où les riches paieront moins, les pauvres vivront mieux. L'économiste Pascal Salin va plus loin, si tant est qu'il est possible d'aller plus loin, en imaginant, lui, la suppression de l'impôt progressif et des droits de succession. Même à gauche, le poids fiscal interroge et en déstabilise certains, dont le président Mitterrand lui-même, oui, qui après quelques mois après le tournant de la rigueur en septembre 83, indique dans l'émission L'Enjeu, trop d'impôts, pas d'impôts, il faut revenir à des chiffres raisonnables. En avril 1986, porté par la gronde antifiscale et la déception des classes les plus fragiles face à la crise, le Parlement passe à droite. Le Parti communiste rassemble moins de 10% des voix, le PS dépasse à peine les 31%, alors que l'Union RPR-UDF remporte 40% des sièges. La France connaît alors sa première cohabitation. Jacques Chirac redevient Premier ministre et nomme Édouard Balladur au ministère des Finances et de la Privatisation, aidé dans cette tâche par Alain Juppé, nommé au budget. Et c'est lui qui annonce, dès le 16 avril 86, la fin de l'impôt sur les grandes fortunes.
Et puis, il y a donc la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes. Alors, ce n'est pas une mesure plus symbolique qu'économique, si je puis dire.
On pourrait dire qu'elle est symbolique, puisque c'est vrai que le coût en est relativement limité, moins de 4 milliards, à peu près 3 milliards et demi, car nous maintenons la taxation sur les bons anonymes. Mais il faut voir que cette mesure, qui s'ajoute à beaucoup d'autres formes de taxation du capital en France, les droits de succession qui ont été considérablement augmentés, les impôts locaux, etc., cette mesure avait un effet très pervers, cet impôt avait un effet très négatif sur l'investissement immobilier notamment. Et voilà pourquoi, là aussi, nous annonçons sa suppression au 1er janvier avec la mesure que vous avez d'ailleurs signalée et qui va avec, c'est-à-dire une exonération de l'impôt sur le revenu pour les contribuables modestes d'un montant au moins équivalent.
La promesse est respectée. Dès les premières semaines du retour au pouvoir de la droite, le gouvernement de Jacques Chirac fait voter une série de mesures qui diminuent la pression fiscale, notamment sur les plus fortunés. Pourtant, dans le même temps, la pauvreté s'intensifie et revêt désormais plusieurs visages. Le succès et l'impact du lancement des Restos du Cœur est un révélateur de ce basculement d'une part de la population dans la grande pauvreté. En 1987, un rapport du Conseil économique et social indique que la France compte près de 2,5 millions de personnes ayant des ressources insuffisantes pour vivre, 1 million de chômeurs non indemnisés, 400 000 personnes sans couverture sociale et pas loin du même nombre pour ce qui concerne les sans-abri. Pour l'instant, ce sont les municipalités qui innovent et qui imaginent des solutions d'entraide envers les plus démunis. En 1987, les députés socialistes déposent une proposition de loi pour la création d'un revenu minimum d'insertion. Idée que le président Mitterrand reprend dans sa lettre à tous les Français quand il déclare « Peu importe le nom qui lui sera donné, revenu minimum d'insertion, revenu minimum garanti. » Non, l'important est qu'un moyen de vivre, ou plutôt de survivre, soit garanti à ceux qui n'ont rien, qui ne peuvent rien, qui ne sont rien. C'est la condition de leur réinsertion sociale. Comment financer ? Poursuit le président, en grande partie par le rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes. La diminution des inégalités et la solidarité de tous devient l'un des thèmes de l'élection présidentielle de 88, durant laquelle s'affrontent le Premier ministre Jacques Chirac et le président François Mitterrand. Le 8 mai 1988, le président sortant remporte l'élection haut la main. Pourquoi Jacques Chirac a-t-il perdu ? Selon les confidences de ses proches, il pense lui-même que c'est la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes qui est la principale raison de sa défaite, ce que confirme quelques semaines plus tard l'ancien ministre délégué au budget Alain Juppé, qui parle d'erreur, oui. Au même moment, Michel Rocard entre à Matignon, et c'est lui qui a la charge de la création du RMI, dispositif intimement lié au rétablissement de l'impôt sur les fortunes, comme il l'explique à la tribune de l'Assemblée.
L'impôt sur la fortune est une contribution de solidarité, pas une revanche contre les riches. C'est pourquoi, selon nous, le principal problème posé, mais il est très épineux, concerne non pas le principe de l'impôt, mais la définition du meilleur équilibre entre la solidarité nécessaire et la pertinence économique. C'est une simple question de bon sens. À l'heure où s'ouvrent nos frontières, une imposition trop forte inciterait à la fuite des capitaux, conduirait à ce que le potentiel d'investissement du pays aille irriguer les entreprises de nos concurrents, de préférence aux nôtres, en même temps que cela pourrait décourager les activités qu'il nous faut stimuler.
Le 1er décembre 1988, la loi qui institue le RMI est votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Seul le principe de son financement a fait l'objet de passes d'armes entre députés. Comme au temps de la création de l'impôt sur les grandes fortunes, c'est la question de l'assiette de l'imposition qui est au centre des débats. Michel Rocard joue la carte des négociations en cherchant un consensus auprès du patronat. Au final, l'ISF reprend en partie les caractéristiques de l'impôt sur les grandes fortunes. Les biens professionnels, dont la liste a été rallongée, restent exonérés. Mais il y a un élément nouveau, l'idée d'un plafonnement. Autrement dit, le total de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune ne pourra être supérieur à 75% des revenus imposables. Un petit bouclier. Depuis sa mise en place, cette mesure est critiquée par une partie des économistes et des sociologues comme Monique Pinceau-Charlot, par exemple, qui met en évidence le fossé entre revenus imposables et revenus réels des plus fortunés, notamment grâce à l'optimisation fiscale qui permet de cacher une partie de ses avoirs. Effectivement, chaque année depuis la création de l'ISF, on découvre dans la presse les grandes fortunes qui ont réussi à échapper à l'impôt. En 1997, le Canard enchaîné révèle que François Pinault est de ceux-là. Comment ? Eh bien grâce à une astuce fiscale tout à fait légale qui consiste à emprunter des millions pour acheter des actions de son propre groupe, ce qui permet d'augmenter son patrimoine professionnel et de réduire celui sur lequel est calculé l'ISF. L'affaire fait grand bruit, mais la polémique s'estompe car, répétons-le, ce n'est pas illégal. En juin 2016, le journal satirique diffuse la liste des plus grands miraculés de l'ISF, sur laquelle figurent les 50 contribuables français les plus riches, qui en 2015 n'ont pas ou peu payé d'impôts sur leur fortune. Il s'agit d'optimisation fiscale, oui, mais à sens unique. Car quand on sait que les 10% de Français les plus riches possèdent 60% du patrimoine total des Français, eh bien nous dirons que c'est le contribuable qui optimise, pas l'État. We walk around pretending we're all grown up. Hey rich girls, what can you tell me? Why? You're so stuck up, and that's so down. I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. What a lovely way with words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world. We're all grown up. Hey, rich girls, what can you tell me? Why you're so stuck up and act so down? I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. Oh, what a lovely way with words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world. You got to know. You got to know. I went down to your house last weekend. You was like, come on man, you have to point out everything that's bad. So there's a broken mirror on my bed. I clean it up, so what? You don't have to be such an asshole all the time. Don't be like that, she said.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'impôt sur la fortune. Notre invité, Laurent Geoffrin. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Directeur de Libération, notre partenaire. Une fois par mois, c'est donc aujourd'hui, évidemment. Alors, on l'a vu à travers le récit, l'impôt de solidarité sur la fortune, mais impôt sur la fortune, a un sens politique évident. Hein, c'est un acte politique, c'est lié à une philosophie. Est-ce qu'il est pertinent économiquement?
Ça dépend de son taux, pour être franc. Enfin, à mon avis. Hein. Mm-hmm. Si vous avez un taux trop élevé, ça va faire partir les gens, c'est vrai. Donc c'est peut-être moral, mais ça n'aura pas beaucoup d'effet, parce que vous allez perdre en base imposable ce que vous gagnez en taux, c'est idiot. Quoi. Imaginez que le taux soit 10%, par exemple. Ça veut dire qu'en 10 ans, vous n'avez plus de patrimoine.
C'est un peu triste. Il n'a jamais dépassé un 5, en même temps.
Oui, justement, quand c'est un taux très bas, comme c'est le cas aujourd'hui, à mon avis, ça n'a pas d'effet manifeste. Enfin, un peu, il y a toujours des gens qui s'en vont, il y a toujours des radins, des milliardaires radins, qui vont aller se mettre, je sais pas où, Liechtenstein ensuite, là, pour échapper à l'impôt. Mmh. Mais ce raisonnement est pervers, hein, parce que il y a toujours des pays qui imposent moins les gens que la France. Et surtout la France, c'est pratiquement le record mondial. Mais à ce moment-là, il faudrait s'aligner sur le plus bas, quoi. Et donc, ça a des conséquences et politique et sociologique. C'est-à-dire que vous adhérez implicitement à un modèle de société extrêmement inégalitaire. Et toute la philosophie de cet impôt, c'est justement qu'on l'appelle solidarité ou impôt, ou je sais pas quoi, c'est pour réduire un peu les inégalités qui restent très élevées en France. Et il y a un autre argument pour l'impôt sur la fortune, c'est que il y a des pays où on impose beaucoup les gens, en général, soit sur le patrimoine, soit sur le revenu, soit les deux. Par exemple, les pays scandinaves.
Scandinaves, c'est connu, absolument.
Personne ne peut dire que les pays scandinaves sont réduits à la misère. Au contraire, c'est parmi les pays les plus prospères du monde. De la même manière, sous Roosevelt, aux États-Unis, un pays libéral, etc., on a augmenté le taux d'imposition marginal. Alors, c'était sur le revenu, là.
C'était dans le New Deal aussi.
C'était après le New Deal, mais ça a perduré jusque.
La philosophie du New Deal.
Jusque dans les années 70, hein, ça a duré longtemps. Le taux marginal était de 80% sur la dernière tranche, la tranche la plus élevée du revenu. C'était 80%. En France, quand Hollande a parlé de faire 75%, il a essayé d'ailleurs. D'abord, il a été retoqué par le Conseil constitutionnel et ensuite, ça a créé un tollé incroyable.
Et on est bien d'accord que
l'idée selon laquelle ça décourage l'initiative est contestable, pour le moins.
Alors, en 82, quand le gouvernement socialiste décide de mettre en place cet impôt sur la fortune, alors qu'il deviendra l'ISF, hein, de solidarité sur la fortune, en 88. Donc, il change de nom. Donc, c'est pas une invention française, vous venez de le dire, mais à l'époque, l'Espagne pratique ça, oui. Je crois, dans la zone euro. Les pays scandinaves le pratiquent encore aujourd'hui. On en est où, là, même, par rapport à...
Il y a quelques pays en Europe qui le font.
Oui.
Je crois qu'il y a la Suisse, un peu, ça dépend des cantons. Il y a le Liechtenstein, paradoxalement, évidemment, ce sont des pays qui, par ailleurs, imposent peu ou moins le revenu ou le revenu du capital. Donc, ça équilibre un peu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme autre pays? Je crois qu'il y a la Norvège, qui a un impôt sur les grandes fortunes. L'impôt sur le capital, ce n'est pas une invention d'aujourd'hui. Sous l'Ancien Régime, il y avait un impôt sur les portes et fenêtres. On va imposer parce qu'on n'avait pas le temps de calculer la valeur de la maison. On va prendre une cote mal taillée, on va prendre le nombre de portes et de fenêtres. Comme s'il y a beaucoup de portes et de fenêtres, c'est-à-dire que c'est une grande maison, donc c'est normal de l'imposer.
Alors, du coup, ça avait une baie vitrée, on était mal parti. Quoi.
Alors, du coup, les gens bouchaient leurs fenêtres pour payer les impôts. Ils vivaient dans l'obscurité quasiment pour réduire leurs impôts. Mais donc c'est depuis toujours. On a toujours pensé que les gens les plus riches devaient contribuer un peu plus que les autres. Aux dépenses communes, c'est la moindre des choses.
Et est-ce que l'impôt sur la fortune, c'est l'un des marqueurs? On a bien vu en 82, il y a la gauche d'un côté qui adhère, il y a la droite qui le combat, et puis la gauche, elle devient social-démocrate, social-libérale, et puis on a Manuel Valls qui, à un moment, voulait le supprimer avant de rebrousser chemin. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'un des marqueurs?
C'est le marqueur évident.
Voilà, c'est le marqueur évident d'une autre vie politique.
C'est presque une caricature. La droite veut le supprimer, la gauche veut le maintenir, et le centre, proclamé comme tel, il coupe la poire en deux et il supprime l'impôt sur les actions, enfin sur les valeurs mobilières, et puis il maintient l'impôt sur l'immobilier. Il y a un autre argument pour l'impôt sur la fortune, d'ailleurs que Macron emploie implicitement, même explicitement dans son raisonnement, qui est un vieil argument, à la fois libéral et keynésien, consistant à dire, si vous taxez un peu le capital, vous l'obligez à s'investir dans des activités rentables.
Ouais.
Parce qu'autrement, il est érodé année après année. Donc si vous gardez votre argent en billets, imaginons, ben vous allez perdre, la masse de billets va se réduire de 1,5% par an. Puis au bout de 70 ans, vous n'aurez plus rien. En tout cas, vous serez tombé au niveau imposable. Donc si vous mettez cet aiguillon au capital qui dort, vous l'obligez à se réveiller, et donc à s'investir dans des activités qui seront bénéfiques pour tout le monde, puisqu'elles seront créatrices de richesses et d'emplois. Et c'est un argument qui est pas faux. Ça oblige les riches, finalement, à se démener pour pas s'appauvrir. C'est pas mal.
Est-ce que ça pourrait mettre fin à cette espèce de guerre de religion autour de l'ISF, cette réforme Macron, d'ailleurs, globalement?
Je crois que
cet impôt
est accepté en fonction de l'acceptabilité de l'impôt dans la société donnée. Et cette acceptabilité n'est pas la même selon les pays. Il y a des pays qui sont habitués à des forts taux de prélèvements obligatoires, parce qu'ils estiment que ça sert à financer les services publics dont ils ont besoin. Puis il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus individualistes, ou beaucoup plus entrepreneuriaux, comme on veut, comme les États-Unis, où on considère que les prélèvements obligatoires doivent être très bas, de manière à favoriser l'activité, que c'est comme ça qu'on va employer tout le monde. Donc selon les pays, c'est une question culturelle, quoi. C'est pas seulement une question de raisonnement économique ou macroéconomique, c'est une question culturelle. Est-ce qu'on dit comme Margaret Thatcher, « There is nothing such as society », il n'y a pas de société. Donc il n'y a que des individus séparés, et donc il faut les motiver, donc surtout les impôts doivent être le plus bas possible. Soit autrement, on dit il y a une société qui doit être solidaire, et c'est un scandale de voir que des gens ne peuvent pas vivre dans la dignité, même s'ils ne travaillent pas, ou travaillent peu, ou travaillent mal, ou ils n'ont pas été formés, ou des choses comme ça. Mais c'est un scandale quand même, donc il faut leur procurer les moyens de vivre dignement, et donc on va taxer les gens riches.
Alors, est-ce que, par rapport à ce que prévoit Emmanuel Macron, là, ça y est, on est dans l'actualité, l'ISF remplacé par un impôt sur la fortune immobilière, est-ce que c'est la fin de l'esprit de l'impôt sur la fortune, selon vous ?
Pas tout à fait, puisqu'il le maintient pour l'activité immobilière en disant que c'est un argent qui dort, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce que l'activité, quand on dit le bâtiment va, tout va, donc c'est quand même un secteur économique important, on ne voit pas très bien pourquoi on devrait taxer celui-là et pas les autres. Un peu bizarre.
Oui.
Enfin bon, on peut admettre aussi que la pierre, c'est d'autant plus que le patrimoine immobilier a tendance à monter. C'est les gens qui gagnent de l'argent en dormant, parce que c'est le prix de l'immobilier monte, surtout en centre-ville. Donc les gens s'enrichissent sans rien faire. Donc on va taxer quand même cette richesse qui est en partie obtenue sans rien faire. Hein, puisque vous achetez un appartement à Paris, bah, il a dû doubler, tripler, quadrupler de valeur depuis 10 ans ou 15 ans. Pareil pour les maisons au bord de la mer, etc. Donc on dit, on va taxer ça, parce que c'est pas indûment gagné, c'est légal, mais bon, ça profite à personne en tout cas, sinon aux propriétaires. Et donc on va exonérer les gens qui prennent le risque d'investir dans les entreprises ou la bourse, etc. Bon. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est pas non plus, une mesure bolchevique d'obliger quelqu'un qui a 10 millions d'euros, par exemple, de patrimoine. Il va payer 100 000 euros d'impôt sur la fortune. C'est une somme, 100 000 euros. Enfin, il a quand même 10 millions.
Il en reste beaucoup, bien sûr.
Et en plus, c'est pas tout investi dans la pierre. Donc, il y a probablement une partie qui est investie en actions ou en obligations qui rapporte un revenu, même s'il est aussi taxé.
Alors, on a vu, l'ISF est un sujet qui enflamme les débats. On va écouter un reportage d'Annaëlle Verzeau, ici présente. Bonjour Annaëlle.
Bonjour Fabrice.
Alors vous
bonjour.
Êtes allée à la fête de l'humanité, vous me direz, mais quel est le rapport ? Parce que c'est quand même pas l'endroit où l'on trouve probablement le plus de personnes assujetties à l'impôt sur la fortune. Hein. Mais enfin bon, bah, écoutez...
En tout cas, s'il y en avait, ils étaient bien cachés. Non, voilà. Il y avait en tout cas une bonne ambiance dans les allées du parc de la Courneuve. Et là, effectivement, donc, j'ai interrogé des participants sur la fin donc annoncée de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui sera donc a priori bientôt remplacé par un impôt sur la fortune, donc immobilière uniquement.
Ah, c'est-à-dire que le gouvernement s'apprête à sortir le patrimoine financier, de cet impôt.
Ce qui réduira de 3/4 les recettes de l'ISF.
Voilà. Ce qui devrait faire un manque à gagner pour l'État entre 3 et 4 milliards d'euros, ça se précisera. En tout cas, ça n'est pas vraiment bien perçu, ça ne vous étonnera pas, par les visiteurs de la fête de l'IMA que nous allons entendre maintenant.
Pape tour d'aubergine, soupe de poisson, gardienne de taureau, civet de porcelet. Voilà. Je vous interroge sur la suppression de l'ISF, l'impôt sur la fortune, l'impôt de solidarité sur la fortune qui va être remplacé par l'IFI.
Comme d'habitude, c'est toujours les riches qui profitent du système. Nous, il faut qu'on paye. On arrive déjà difficilement à vivre, que ce soit les actifs comme les retraités. Et on doit accepter que nos dirigeants prennent l'initiative de supprimer des impôts sur la grande fortune. Solidarité, ça veut bien dire solidarité, ça veut dire que tout le monde doit payer des impôts.
Sur le site d'En Marche, donc du site du président de la République, il est écrit que c'est pour soutenir ceux qui prennent des risques.
C'est bien. Quel risque ?
Ils prennent des risques.
Quel risque ? Quel risque ? Normalement, l'argent doit servir à l'investissement. Il est investi où ? On prend l'argent, on l'investit, oui, dans des actions en bourse, ça rapporte quoi ? Sachez quand même que nous, on trouve ça dégueulasse, et le mot est léger.
Comment vous appelez, monsieur ?
Denis, j'étais électricien avant. On n'est plus dans le système d'entraide d'aider les gens qui sont les plus défavorisés. On est en train de favoriser ceux qui sont les plus riches. Voilà.
Oui, allez-y, vous avez du travail.
Ouais, exactement.
Je sais pas si vous payez l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune.
Non.
On est étudiants, alors pas vraiment. On n'est pas vraiment concernés, du coup.
Concernés par les APL.
Ouais, voilà.
Quand on regarde l'impôt, qui paye l'impôt, combien il y a de fraude fiscale.
Qu'est-ce que vous faites tous les deux?
Dominique Mogard, retraité cheminot.
Et vous, madame?
Elisabeth Mogard, moi je suis une jeune retraitée, j'ai travaillé à la sécurité sociale.
Et qui fait la fraude fiscale?
C'est 60 à 80 milliards d'euros qui manquent à la France avec l'évasion fiscale.
Et ça, c'est pas les ouvriers qui font la fraude fiscale. Hein. On est en marche arrière, là.
C'est pas en marche, c'est en marche arrière.
C'est en marche arrière.
Ouais. Bonjour, messieurs.
Depuis qu'on a Macron, tout ça, ça nous désespère vraiment, l'histoire de l'ISF et compagnie. On en a marre.
Vous payez pas l'ISF?
Nous, on est les révolutionnaires, on vient de Florange. On vient de Florange.
Vous êtes des anciens ouvriers de...
De Florange, ArcelorMittal.
Sur votre question, voilà. Là, par rapport à
l'ISF. Alors, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune qui est supprimé.
Nous sommes trois retraités.
Oui.
Alors, nous, on est des retraités excédés. Parce que tout le monde est au courant qu'on va nous prélever 1,7% des ans de CSG. C'est un prélèvement sur nos retraites qui ont déjà été acquises par nos cotisations, notre travail, etc. Donc, en définitive, si on regarde, on est en train de pénaliser ceux qui ont travaillé et ceux qui ont cotisé. Hein, c'est ça. Et de l'autre côté, là, on va faire un petit cadeau comme ça pour ceux qui sont pauvres, qui sont à l'ISF, hein, c'est les soi-disant pauvres, de 3 milliards.
Mais bon, c'est une catastrophe.
Votre retraite, elle est de combien?
Moi, elle est de 1600 euros.
Vous étiez ouvrier aussi à Florence?
Moi, j'étais, même chef d'équipe à l'entretien.
Ce qui est vache dans cette affaire, c'est qu'on nous présente, il faut réduire le déficit budgétaire de la France. Donc, il faut des mesures. Donc, ils ont pris les mesures des 5 euros sur l'APL, qui va toucher les plus démunis, les retraités, qui va toucher les étudiants. 5 euros pour des familles modestes, c'est important. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il va mettre la CSG. Et en même temps, il va réduire l'impôt sur la fortune. Et il nous dit qu'il faut réduire le déficit budgétaire de la France. Il n'y a pas une contradiction, là? Donc, il va nous faire payer à nous pour donner plus de 4 ans de cadeaux aux financiers. Le fort du premier, mais il est là. On utilise le déficit pour culpabiliser les gens, mais pour désengager le capital du financement du collectif, de l'humain en France, dans sa diversité. Parce que l'argent de l'impôt, elle sert quand même à investir pour les collectivités locales, pour la santé, pour les services publics. Donc elle a une dimension sociale, l'impôt. C'est grave de penser que l'impôt, c'est quelque chose de moche. L'impôt doit servir au progrès social. Ou c'est pas normal, c'est que les riches payent de moins en moins d'impôts et les travailleurs, ils en payent de plus en plus.
Voilà. Bonne journée à vous.
À vous aussi. Au revoir.
Laurent Geoffrin, ce que vient de dire ce monsieur...
C'est illustre tout ce qu'on vient de dire.
Voilà, l'acceptabilité d'impôts, le lien social, mais pas n'importe comment, en gros.
Oui, c'est simple. Après, il y a un raisonnement froid qui consiste à dire, est-ce qu'on y perd, on y gagne. Moi, je suis favorable aux thèses du philosophe américain John Rawls.
Qui dit
que les inégalités sont acceptables si elles profitent aux plus démunis.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, c'est-à-dire, bien sûr.
Si la société était totalement égalitaire, on peut supposer, ça a déjà été essayé, qu'elle serait moins efficace, que finalement les moins démunis, les plus démunis auraient moins d'argent dans ce cas-là. Donc il faut encourager ceux, effectivement, qui prennent des risques, qui ont l'initiative, bon, ça, d'accord. Mais ensuite, il y a une solidarité nécessaire. Et dans le cas de la suppression de l'impôt sur la fortune, il faudrait démontrer que ça va profiter aux gens qu'on vient d'entendre, d'une manière ou d'une autre.
Oui.
Est-ce que ça permettra d'augmenter les prestations, par exemple, parce que ça créera de l'activité et de l'emploi? Est-ce que ça va diminuer le nombre de chômeurs? Mais ça, c'est pratiquement indémontrable.
Encore faut-il
La mesure est vraiment idéologique, quand même. Elle est très idéologique.
Bien sûr. Il faut la financer, la croissance reprend des couleurs, donc peut-être qu'elle pourra au moins en financer une partie, mais il y a un problème, c'est que la concomitance d'une annonce comme celle-là...
Ah bah oui, vous avez raboté certaines prestations...
Les APL, c'est quand même une mesure ni de gauche, hein, pour...
Quoi donc
De baisser les APL.
De baisser un peu, bon. Oui, 5 euros.
Voilà, donc ça fait quand même deux mesures qui, historiquement, n'appartiennent pas à la gauche, appartiennent vraiment dans la tradition de la droite.
Absolument.
Bon.
Mais je comprends très bien que c'est facile à comprendre, que quand on fait les deux en même temps, Parce que si on calcule combien ça va faire économiser d'argent individuellement à la mince couche des gens les plus riches, genre Bernard Arnault, etc., vous aboutissez à des sommes importantes, quand même très importantes. Et en même temps, vous allez raboter un tout petit peu, ou même un peu, l'argent de ceux qui n'en ont pas beaucoup. Donc ça crée un scandale, c'est normal.
Je vais vous faire un petit cadeau, Laurent Geoffrin. C'est pas un cadeau fiscal, c'est un petit Beatles, puisque vous êtes là. Alors je sais pas, c'est une chanson qui s'appelle Taxman de George Harrison en 66 au Revolver, un peu poujadiste. Je sais pas quelle mouche a piqué George Harrison. Ah,
parce qu'à l'époque les impôts anglais étaient très élevés.
Ouais, comme la musique est belle comme d'habitude, les paroles passent à l'as. Taxman des Beatles, George Harrison a lancé le débat sur l'impôt sur la grande fortune avant tout le monde, parce que c'était des grandes fortunes, les Beatles. Laurent Geoffrin, il y a quelques semaines dans l'émission On n'arrête pas l'écho sur France Inter d'Alexandra Ben Saïd, l'économiste et journaliste Christian Chavagneux illustrait la politique d'Emmanuel Macron par une citation, celle de l'homme d'affaires américain Warren Buffett, qui disait, écoutez bien, il y a une guerre des classes et c'est ma classe, la classe des riches, qui mène cette guerre et qui est en train de la gagner. Est-ce que ça veut dire qu'on est à la veille d'une révolution libérale? On voit bien qu'il y a quand même une tendance.
On n'est pas à la veille, elle a commencé en 1980.
C'est ce que je viens de dire. On voit bien qu'il y a une tendance, mais est-ce que là, on va vers vraiment une révolution libérale? Est-ce que nos gouvernements successifs montrent
ça? Je crains que ce soit la poursuite d'un mouvement qui est engagé depuis longtemps. La baisse des taux d'impôt, elle a commencé avec Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Et c'est vrai qu'avant, les impôts étaient très élevés, y compris dans les pays anglo-saxons. Mais depuis, on a diminué de manière considérable l'imposition de tout le monde, et notamment des gens les plus riches. Donc on va poursuivre dans cette direction. C'est vraiment une guerre de classe, ça c'est vrai. Je pense que c'est vrai parce que ça n'a pas de justification mondiale sur le plan économique. Quand les taux étaient plus élevés, la croissance était plus forte. Ouais. Donc cet argument ne tient pas debout. À l'époque, les taux qu'on décrit maintenant comme confiscatoires n'ont pas empêché l'économie mondiale de progresser de manière spectaculaire. Et donc ça ne tient pas debout. Ça, c'est parce qu'il y a un establishment capitaliste, financier, de propriétaire, qui a gagné une prédominance politique et qui a réussi à imposer idéologiquement, culturellement et politiquement ses vues consistant à dire il faut payer moins d'impôts.
Ce sera le mot de la fin. Laurent Geoffrin, merci. On se retrouve dans un mois puisque Libération est notre partenaire maintenant. C'était donc Affaires Sensibles aujourd'hui, l'ISF, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Michel Bézikian qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nous évoquerons le drame du Biafra. Et merci également à Emmanuel Anel Verzo pour son reportage tout à l'heure à la fête de l'humanité.